Bonjour à tous, bienvenue. Il est midi et demi.
Europe Midi Week-end.
Thierry Dagiral.
30 minutes d'information jusqu'à 13h à la une de l'actualité de ce samedi 18 septembre. La colère de Paris après le torpillage de l'énorme contrat de sous-marin français à Canberra. La France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. On en parle dès le début du journal. 20 ans au pouvoir, chassé par la rue en 2019, le président Abdelaziz Bouteflika est mort. Il avait 84 ans. Son portrait dans Europe Midi. Un conseil de défense mercredi prochain et l'exécutif qui veut alléger les restrictions sanitaires. Mais lesquelles et où? Je poserai la question à mon invité, l'infectiologue Benjamin Davido. On sera à Amiens où 7000 chasseurs sont réunis depuis ce matin. C'est ainsi un peu partout en France. Ils veulent le retour à la chasse dite traditionnelle. Nous serons dans la Somme en direct avec Maximilien Carlier. On parlera foot bien sûr avec le Derby du Nord à 17h et puis journée du patrimoine. Des idées de sortie et une question, est-ce qu'on en fait assez pour notre patrimoine justement? La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien Thierry, la perturbation présente ce matin sur la Bretagne continue sa progression vers l'est et vous retrouvez donc un ciel plus lumineux et plus sec surtout sur le littoral entre la Bretagne et le Pays Basque. C'est plus orageux et maussade entre l'île et Tarbes et l'est sans nuages petit à petit au fil de la journée.
Météo complète juste avant 13h. C'est la formation de la nuit, hein. Le premier dossier de ce journal, c'est la suite bien sûr du torpillage du fameux méga contrat de sous-marin français à Canberra. La France rappelle ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Jean-Sébastien Soldanelli, bonjour.
Bonjour.
C'est une décision sans précédent entre ses alliés historiques.
Hein. Sans précédent depuis 1778, ça fait longtemps depuis que le traité d'alliance entre la France et les USA a été signé. Le texte prévoyait une paix éternelle, ce n'est évidemment pas remis en cause, mais tout de même, nous sommes haut dans l'échelle des remontrances, puisque Jean-Yves Le Drian considère qu'il s'agit de comportements inacceptables entre alliés et partenaires d'une gravité exceptionnelle, précise même le Quai d'Orsay. Et il faut le reconnaître, c'est le genre de rhétorique que les diplomates réservent plutôt à leurs adversaires. Alors ça, plus le rappel des ambassadeurs, ça montre que ce revirement australien est vécu comme un camouflet par Paris sur le principe et sur la forme. Tout d'abord parce que la France a découvert tout cela par des rumeurs dans la presse outre-Atlantique. Ensuite, parce que jusqu'au bout, les Australiens on fait comme si de rien n'était. Il faut donc marquer le coup. Cela passe par cette mesure très symbolique du rappel des ambassadeurs à Paris. C'est la partie visible des tensions qui viennent de naître. Ça n'ira pas jusqu'à la rupture des relations, mais ça promet une semaine prochaine animée dans les chancelleries, et notamment à New York où s'ouvre l'Assemblée générale des Nations Unies.
Jean-Sébastien Soldanelli, grand reporter à Europe 1. Bonjour Patrick Martin-Genier.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, parle de décision exceptionnelle, car cette rupture, dit-il, de contrat est d'une gravité exceptionnelle.
Oui, c'est vrai que c'est très grave, en effet, parce que lorsque vous signez un contrat qui était dit comme un contrat du siècle, il devait durer 50 ans, il devait y rester, créer des emplois, et donc cela devait établir une relation contractuelle très importante entre donc le groupe français industriel et l'Australie. Le fait que l'Australie ait décidé de rompre unilatéralement un contrat, c'est parfaitement déloyal, c'est grave, bien que des signes précurseurs avaient été envoyé à Paris, qu'on accusait finalement de retarder le dossier, de prendre du retard dans la conception du projet. Donc, il y a quand même eu cet avertissement, c'était au mois de juin, lorsque le Premier ministre Scott Morrison a rencontré Emmanuel Macron, et a priori, on pensait qu'effectivement, on avait trouvé une solution, ce n'était pas le cas. Effectivement, la France a été prise par surprise, et au dernier moment, avant même le Conseil des ministres, c'est le Premier ministre australien qui a annoncé au Président de la République que le contrat était mort.
Patrick Martin-Genier, on en parlait à l'instant avec Jean-Sébastien Soldanelli, Assemblée générale de l'ONU dès la semaine prochaine. Que peut-il se passer ?
Écoutez, il ne se passera rien parce que franchement, le rappel des ambassadeurs, c'est le deuxième degré des protestations diplomatiques. Normalement, on convoque l'ambassadeur. Le second degré, c'est effectivement le rappel des ambassadeurs. L'objectif est de bien montrer à l'Australie et aux États-Unis que la France est parfaitement mécontente de ce coup, hein, effectivement politique et stratégique. Et donc, il va y avoir des discussions. L'objectif de la France, éventuellement, c'est d'obtenir des excuses, le cas échéant, mais surtout des explications politiques sur ce revirement soudain soudain de l'Australie et le fait que les États-Unis finalement ne font pas grand cas de la France, ce qui est une atteinte quand même à sa réputation internationale.
On peut également envisager des compensations financières ?
Ah, de toute façon, il y aura des compensations financières. Vous savez, ce contrat est un contrat secret, il n'a jamais été publié, mais il y a des clauses au terme desquelles, lorsque vous rompez un contrat de façon unilatérale, et si la France n'a pas commis de faute, ce qui semble être le cas, bien qu'on l'accuse d'avoir pris du retard, bien sûr qu'il va y avoir des compensations financières qui devraient se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros, sachant déjà que l'Australie a engagé entre 2 et 3 milliards d'euros dans le projet, donc ce sera un désastre financier également pour l'Australie. Mais effectivement, la France devrait obtenir, enfin le groupe industriel français devrait obtenir des indemnités compensatrices.
Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions de relations internationales sur Europe 1. Merci à vous, merci monsieur.
Merci.
C'est l'autre information de cette nuit désormais officielle. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort, il avait 84 ans. On se souvient bien sûr qu'il avait été chassé du pouvoir en 2019 après d'énormes manifestations populaires. Nicolas Feldman, Boutef, c'est l'artisan de la réconciliation nationale qui aura tout fait pour rester au pouvoir.
Oui, quand il arrive au pouvoir en 1999, porté par les militaires, Abdelaziz Bouteflika n'a qu'une obsession, rétablir la paix dans une Algérie meurtrie par une décennie de terrorisme. C'est ce qu'il parviendra à faire avec l'amnistie des islamistes. L'autre ciment de la réconciliation nationale, eh bien, c'est l'opposition à la France. Bouteflika, figure de l'indépendance, le rappelle dès le jour de son élection.
Cette forme de protectorat, cette forme de souveraineté limitée est absolument inacceptable avec moi.
Abdelaziz Bouteflika, petit homme moustachu aux yeux clairs, se lance alors dans un règne de 20 ans, réélu 4 fois, avec à chaque fois plus de 80% des voix. Mais sous sa présidence, les inégalités se creusent, ses proches s'accaparent les richesses du pays, tandis que l'Algérie s'enfonce dans une crise économique. En 2013, Boutef, comme le surnomment les Algériens, est victime d'un AVC et disparaît peu à peu, mutique, paralysé. Celui qui devient président fantôme est pourtant candidat à un cinquième mandat en 2019. Pour les Algériens, c'en est trop. Par milliers, ils descendent dans la rue. Deux mois plus tard, Abdelaziz Bouteflika, acculé, fait sa dernière apparition. Dans un fauteuil roulant, il remet sa démission et se retire dans une résidence médicalisée. C'est là qu'il s'est éteint hier soir.
Portrait signé Nicolas Feldman. 12h37 sur Europe 1. Retour à présent sur la journée d'hier au procès des attentats du 13 novembre à Paris. Hier, c'était l'examen minutieux des scènes du crime, celle du Bataclan. Et à la barre, un enquêteur qui a décrit minute par minute l'horreur de cette attaque. Une journée bien sûr très difficile pour les rescapés, difficile certes, mais utile pour Sébastien. Il était au Bataclan en cette journée du 13 novembre. Cette journée hier lui a permis de remettre en ordre ses souvenirs. Écoutez.
Je suis venu pour entendre les faits. Rien que les faits, j'ai l'impression de ne plus trop avoir de souvenirs parfois, étant donné que j'ai passé mon temps à pas fermer les yeux, mais à fuir en tout cas, et à essayer d'être hors de l'atteinte des balles. Et je crois que j'ai bien fait ce soir-là parce que je viens de découvrir que la partie dans laquelle j'étais, donc la fosse droite, a été celle où il y a eu le plus d'amoncellement de corps, où il y a eu les mutilations les plus importantes. Je ne suis pas mécontent d'être parti de cet endroit-là. Le sort a voulu que par la suite j'ai été otage. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Ouais, c'est pour ça que je voulais quand même revenir et entendre réellement ce qui s'était passé pendant que j'étais otage, quoi. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la salle après, pour avoir une vision précise de ce à quoi j'ai réchappé.
Voilà, Sébastien rescapé du Bataclan au micro européen de Gladys Lafitte du service police-justice. Ce sera cet après-midi le dixième week-end, la dixième fois que les antipasses descendent dans les rues un peu partout en France, alors que justement l'exécutif cherche à annoncer très vite une possible levée des restrictions sanitaires. On va en parler avec vous, Benjamin Davido, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, tout près de Paris. Les chiffres sont là, 32 départements sous le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Ça va clairement mieux, l'épidémie est derrière nous ?
En tout cas, cette quatrième vague, elle semble se terminer et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut être lucide, on arrive sur la saison automnale et l'hiver et donc il y aura une cinquième vague, ça paraît difficile d'y échapper. Je rappelle qu'il y a 64% de la population qui est entièrement vaccinée et souvenez-vous, on avait parlé de cette immunité collective, il fallait des chiffres beaucoup plus importants, de l'ordre de 80%. Ouais. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans les conditions, on essaye de lisser le plus possible cette vague comme on a su le faire, notamment à l'hôpital pour la quatrième vague.
Santé publique France, noté hier que les Français étaient de moins en moins nombreux à respecter les gestes barrières. Vous le sentez également, vous dites attention.
Oui, très clairement. Après, je pense qu'il faut se préparer à une situation finalement qui va être particulière avec la rentrée. Il va falloir aérer les espaces. On s'est beaucoup retrouvé en extérieur et ça va être l'enjeu. Et on sait que justement à l'intérieur, il va falloir continuer ou pour certains réapprendre à utiliser ce masque. Et probablement qu'avec ce succès de cette campagne de vaccination et du passeport, on pourra relever un certain nombre de restrictions en extérieur sur le masque. Et ça, je pense que scientifiquement, on n'a pas de problème avec ça et qu'il faut aller finalement dans une pédagogie positive pour continuer à vivre avec le virus et en quelque sorte le dompter.
Benjamin Davido, on le voit, Emmanuel Macron multiplie les déclarations pour annoncer la possible levée des mesures de restriction. Que peut-il faire? Que devrait-il faire selon vous?
Moi, je pense qu'il ne faut pas aller dans l'empressement parce que ce n'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Il faut rester sur cette lignée. Encore une fois, on a un long tunnel à passer qui est la période automno-hivernale jusqu'à mars prochain. Moi, je pense qu'il faut continuer. 64% des Français vaccinés, c'est bien, mais ça reste malheureusement insuffisant. Il faut rappeler que 8 malades sur 10 qui arrivent à l'hôpital ne sont pas vaccinés et que la vaccination divise par 10 la probabilité de se retrouver à l'hôpital. Et c'est bien ça l'enjeu des restrictions. Finalement, c'est le fait de ne plus avoir de malades à l'hôpital en quelque sorte. Mmh. Et puis il y a aussi cette campagne de troisième dose qu'il va falloir réussir, donc tout n'est pas derrière nous. On a vu des pays comme Israël qui avaient commencé les premiers, c'est l'histoire du lièvre et la tortue, et qui n'ont pas passé la ligne d'arrivée. Mmh. Et puis l'an dernier on a été exempté de cette grippe hivernale habituelle, cette année on ne sait pas, il va falloir continuer à se vacciner. Donc sur le plan de la santé, il y a beaucoup trop de choses à faire pour, à mon avis, lever les restrictions.
Donc vous dites clairement non à la levée du pass sanitaire dans certains endroits.
Je pense qu'en tout cas, il ne faut pas réitérer les erreurs qu'on a fait. À l'époque, on n'avait pas de vaccin, où on a différencié, vous savez, la France de plusieurs couleurs, en expliquant que là où ça allait bien, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. On sait que lorsque ça va mieux, si on fait tout ce qu'on veut et qu'on lève les restrictions, eh bien on fait repartir l'épidémie. Et aujourd'hui, malheureusement, l'épidémie, elle est là pour durer. Et on voit encore que finalement, si on dézoome de la France, la plupart des pays en Europe sont dans la même situation et que tout le monde va vers quelque chose de contrôler. Et je pense que c'est ça qu'il faut assurer tant qu'on n'a pas cette troisième dose et tant qu'on n'a pas un vaccin 2.0, voire un vaccin Sanofi, pour aller durablement dans le contrôle de l'épidémie.
Et je rappelle qu'un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu donc mercredi prochain. Merci à vous, Benjamin Davido, infectiologue, ce midi en direct sur Europe. Dans un instant, on va s'intéresser aux chasseurs en colère. Ils manifestent partout en France aujourd'hui. On va parler football avec le derby du Nord à 17h, Lens-Lille. Et puis, on parlera bien sûr patrimoine. En fait-on suffisamment pour le sauvegarder? Bon appétit à vous. On revient tout de suite.
Europe Midi Weekend. Thierry Dagiral.
1h moins le quart, l'information à la mi-journée jusqu'à 13h. Il y a 1 million de chasseurs en France. Ils veulent le retour des chasses dites traditionnelles. Ils sont en colère et manifestent un peu partout en France, notamment à Amiens, dans la Somme où vous êtes, Maximilien Carlier. Beaucoup de monde sur place, hein?
Oui, effectivement Thierry, plusieurs milliers de chasseurs sont rassemblés ici. Gilets orange sur le dos, on entend les cors de chasse, on voit des pancartes, pas de pays sans chasseurs. Chasseurs en colère, ras-le-bol d'être constamment stigmatisés. Thibaut, originaire de Seine-Maritime.
On en a plus qu'assez d'être un petit peu déconsidéré, laissé de côté et administré par des gens qui vivent en ville et qui sont loin de nos territoires. Donc on est là aujourd'hui pour montrer, on veut défendre nos valeurs de la ruralité, montrer qu'on existe dans une ambiance pacifiste.
Et qu'on arrête de s'en prendre à nos chasses traditionnelles, insiste-t-il, plus que raisonnable, encadré. Bref, laissez-nous vivre, martèle Willy Schrein, président national des chasseurs.
Je pense qu'à un moment, il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui ont des passions, qui ont des valeurs, qui ont choisi des vies. Il faut qu'on les respecte, tout simplement. Voilà. Et là, on a plus un cri du cœur. C'est même pas politique cette manifestation, ça va trop loin, on en a marre.
Pas politique, mais l'enjeu électoral est bien là. Xavier Bertrand, président de région et candidat à l'élection présidentielle, était bien présent ce matin pour afficher son soutien aux chasseurs.
Maximilien Carlier, correspondant Europe 1 à Amiens. On va rester dans le Nord avec un derby important en foot cet après-midi. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Thierry.
Lens-Lille.
Vous y êtes?
Ah ouais, ça y est.
Les courants.
Ah
Pierre Bachelet et la chorale des supporters du Stade Bollard. C'est un rituel depuis des décennies.
Hein. Oui,
mais ça faisait 11 ans que le stade de Lens n'avait pas été plein pour ce derby qui fait vibrer toute une région. Lens, la petite ville populaire et ses anciens bassins miniers face à Lille, la métropole. Les sang et or ont longtemps végété en Ligue 2. Puis il y a eu la pandémie. Évidemment, les stades étaient vides, match à huis clos. Et bien cet après-midi, ils seront 35 000 pour pousser les Lensois à la victoire face aux champions de France lillois. Lens, il faut le dire, est cinquième et pratique un jeu pétillant grâce à son entraîneur Franck Haise. Lille, 12e seulement, début de saison difficile donc, mais match palpitant en perspective entre les deux rivaux. Nous y serons bien sûr avec Sébastien Boué, le coup d'envoi à 17h.
À suivre bien sûr dans les rendez-vous info. Et puis Jean-François, hier, quelle ambiance aussi à la Méno, hein. Strasbourg a croqué Metz 3-0. Suite de la 6e journée de Ligue 1 ce soir avec notamment Saint-Etienne-Bordeaux.
Oui, c'est pas mal Saint-Etienne-Bordeaux sur le papier. Vous connaissez le classement des deux équipes ?
Non, allez-y.
18e Saint-Etienne.
Ah oui.
Bordeaux 20e.
Ah oui.
Donc voilà, deux institutions vénérables qui sont en grande difficulté. Saint-Etienne avait dominé le foot français dans les années 70, Bordeaux dans les années 80, deux clubs en crise, hein, donc autant sportive que financière, qui risquent de lutter pour le maintien cette saison. Grosse pression donc ce soir à Geoffroy Guichard, coup d'envoi 21h, mais on y sera dès 20h, bien sûr.
Bien sûr, avec Lionel Rosso. Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports. On va terminer avec les journées du patrimoine, bien sûr. Tenez, quelques idées. On va aller à Lille, si cela vous tente de voir l'un des trains les plus mythiques, le célèbre Orient Express. C'est ce week-end, visite guidée avec Lionel Gougelot.
Ce que vous allez voir ici aujourd'hui, c'est donc une rame composée de 7 voitures, dont 4 sont classées au titre des monuments historiques.
La visite guidée se fait par petits groupes. Vous remontez la rame de ce joyau du patrimoine ferroviaire en traversant les voitures au fauteuil luxueux.
C'est assez exceptionnel. Et puis la beauté tout simplement des sièges aussi et de la décoration, c'est quand même assez impressionnant.
L'Orient Express, objet culte et culturel inscrit dans les mémoires grâce au cinéma et à la littérature.
Agatha Christie, il y a aussi eu des magnifiques films qu'on revoit avec plaisir. Et puis c'est toute l'enfance aussi en étant petit d'ailleurs, son premier train électrique.
Voici la voiture restaurant, le bar avec son piano. Petit arrêt dans un compartiment décoré de marqueterie art déco. Plongée nostalgique pour une autre philosophie du voyage.
Aujourd'hui, l'impression que tout va trop vite. Et là, quand on est dans ce train-là, on se dit ben, on pouvait prendre le temps. Et le voyage devait sans doute être beaucoup plus agréable que ce qu'on peut vivre aujourd'hui.
Mais ne vous y trompez pas, nous dit Arthur Mettetal, en charge des visites. À l'époque, l'Orient Express, c'était le top de la modernité.
Dans le contexte historique de l'époque, c'est quand même un train qui permet de supprimer les arrêts, qui va très vite. Donc à l'époque, c'est une manière moderne, avec des technologies qui sont quand même à la pointe de la période à laquelle il est mis en service.
Un progrès qui n'était pas partagé par tous. C'est peut-être aussi pour cela que les visiteurs de ce week-end sont un peu privilégiés. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Allez, une autre idée de sortie. Si vous êtes parisien, direction le Louvre, c'est le Batman Day pour célébrer le super-héros le plus connu, sans doute. Une grande fresque sera réalisée à partir de 14h en présence de Mathieu Gabella. C'est le scénariste de BD. Il vient de signer une histoire inédite de Batman et il a justement choisi le Louvre comme cadre de son récit. Écoutez.
En une journée, j'avais des idées. Le dessinateur te dit Catwoman, et bon, bah voilà, cambriolage, romance, Paris, Louvre. Ils vont se mettre sur la tronche au milieu des œuvres d'art. Je le connais bien, hein, le Louvre. Et je me suis dit, c'est quoi les œuvres occultes? Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Et donc, effectivement, bien sûr, il y a la Joconde, il y a le radeau de la Méduse, j'avais très envie de le mettre. Quelque chose que les gens connaissent moins, c'est la victoire de Samothrace. La proue d'un navire avec cette grande statue sans tête, sans bras. Ça a une gueule énorme quand t'es dans le Louvre. Donc il fallait faire quelque chose avec la victoire de Samothrace. Donc tu te dis, bah, je vais faire l'apparition de Batman. Je trouve qu'il faut s'inscrire dans nos œuvres. Il faut utiliser le patrimoine français. On est une destination touristique, on est un peu une carte postale, mais autant s'en servir.
Voilà, le scénariste Mathieu Gabella avec Clément Le Saffre. Fresque donc qui débute dans une heure au Carrousel du Louvre à Paris. Alors, ces journées du patrimoine, c'est bien, mais en fait-on assez? Je pose la question à Julien Lacaze, le président de l'association Sites et Monuments. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Deux jours pour célébrer notre patrimoine. C'est un vrai beau rendez-vous, mais est-ce que c'est suffisant?
Alors, c'est un très beau rendez-vous, effectivement. Mais il ne faut pas que la fête occulte un certain nombre de problèmes qui sont d'abord des problèmes en fait de finances. Alors on parle beaucoup de ce loto du patrimoine qui est effectivement très intéressant.
Oui, d'ailleurs Stéphane Bern dit avoir sauvé près de 300 sites et monuments. C'est pas mal.
C'est pas mal. Alors sauver, c'est-à-dire c'est une participation en fait à quelque chose, voilà, qui a effectivement plus de besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de l'État va être cette année, donc pour 2021, de 336 millions. Mmh. Et 336 millions.
Julien Lacaze, petit problème de liaison. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Ah, on a perdu, me dit-on, Julien Lacaze. C'était pourtant intéressant de l'écouter parce que, juste pour bien
des
expliquer.
Chiffres qui sont assez infinitésimaux. Et,
bon, vous avez perdu Julien. Julien Lacaze,
voilà,
vous êtes là.
Des besoins.
Juste qu'on comprenne bien, parce que j'allais le dire justement à ceux qui nous écoutent, vous défendez, vous, les monuments historiques. Votre association le fait depuis un siècle. Il y a des territoires menacés spécifiquement. Est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui manque finalement pour préserver efficacement le patrimoine?
Alors, ce qui manque, c'est un contexte en fait législatif favorable. Et là, c'est un autre gros problème, c'est-à-dire que le gouvernement a une activité en fait de dérégulation qui évidemment ne convient pas au patrimoine dans tous les domaines. Voilà. Et on peut dire que nos lois de protection avaient progressé jusqu'à d'ailleurs une loi assez récente de 2016 qui avait comblé des lacunes très importantes de notre droit dans le domaine de la protection du patrimoine mobilier, des domaines nationaux, et que maintenant il y a un reflux, et que ce reflux il est vraiment vraiment historique en fait depuis que l'État en fait se mêle de patrimoine depuis 1830. Là en fait on détricote ce patrimoine législatif en quelque sorte qui nous permet de sauver au quotidien le patrimoine. Je peux prendre si vous voulez quelques exemples très rapidement. Pour sauver justement un bâtiment ou un arbre remarquable, il y a très souvent en fait des habitants d'un quartier qui vont constituer une association. Et cette association, elle va être amenée à agir en justice pour essayer de protéger ces arbres ou ce bâtiment. Eh bien, on va dire à cette association, non, vous ne pouvez plus agir en justice parce que vous n'avez pas été créé depuis plus d'un an. Et alors là, les habitants vont dire, mais c'est la menace n'existait pas il y a un an. Bah oui, on va leur dire, voilà. Et ça, c'est un effet de la loi Elan de 2018. Ouais. Et ce qui fait que nous, on n'est pas concernés, puisque nous, on existe depuis 1901, on a la plus ancienne association de protection du patrimoine, mais on ne peut pas faire tous les contentieux de France. Ouais. Donc ça, c'est une mesure très technique, que personne ne connaît, mais qui est très mauvaise pour le patrimoine. Il y a une autre mesure aussi qui est très intéressante, c'est, et là on est en plein dans le sujet des journées du patrimoine, quand on fait des travaux bâtiment, le propriétaire va pouvoir en fait déduire en fait le montant des travaux de ses revenus, qui sont des travaux très onéreux faits par des artisans d'art, voilà, pour compenser un petit peu les choses. Et bien cette fiscalité avantageuse, elle a été ouverte en décembre 2017 aux promoteurs immobiliers qui vendent à la découpe les monuments historiques. D'accord. Et donc là, on a un cas, par exemple, dramatique à Grignon ou au château de Pontchartrain. Voilà, il y a un grand promoteur immobilier qui va découper, en fait, ces monuments historiques en tranches qui ne pourront donc plus jamais être visitables. Et ça, c'est, voilà, il y a une sorte, pour nous, de détournement de la fiscalité monuments historiques au profit des promoteurs.
Dernier exemple. J'aurais pas le temps, Julien Lacaze, désolé. En tout cas, on a compris votre message. Voilà. Vous dites, finalement, patrimoine en danger. Merci
à
vous, je rappelle.
Il faut absolument prendre en considération ces choses.
C'est compris, merci à vous. Vous êtes le président, je rappelle, de l'association Sites et Monuments. Grand merci à vous. Bonjour Laurie Choleva, l'état du Texas, documentaire bouleversant dont vous voulez nous parler et dont vous allez nous parler dans Clap.
L'État du Texas, oui, documentaire bouleversant, l'histoire d'un double combat, celui de la réalisatrice Sabrina Van Tassel pour dénoncer une erreur judiciaire, une condamnation à mort, son véritable procès équitable, et puis le combat surtout de cette mère de famille nombreuse, pauvre, droguée, accusée d'avoir tué sa fillette qui attend depuis 11 ans dans le couloir de la mort d'une prison texane l'exécution de la sentence et qui espère que la vérité sera rétablie un jour. C'est un documentaire édifiant, hallucinant, une enquête minutieuse de Sabrina, la réalisatrice qui a scruté tout les manquements du procès et lève le voile sur cette existence brisée. Écoutez Sabrina nous parler de sa rencontre avec Mélissa.
Ma rencontre avec elle, c'est un accident en fait, mais c'est aussi le destin. Elle m'a autant apporté que je lui ai apporté, je pense. Donc oui, effectivement, c'est la rencontre de deux femmes et le regard d'une femme sur une autre femme. Avant moi, elle n'avait jamais été interviewée par personne. Elle était complètement, on va dire, séparée, isolée, et elle n'avait plus contact avec sa famille parce que beaucoup de condamnés à mort, au moment de la sentence, en fait, c'est une exécution immédiate, quelque part, psychologiquement.
Alors c'est vraiment un documentaire qui prend au trip le portrait déchirant de cette femme, une dénonciation aussi efficace de l'inégalité des citoyens américains devant leur justice, selon qu'ils soient puissants ou misérables.
Alors Laurie, maintenant voyons la sortie incontournable.
Oh oui, clairement, le film le plus attendu de l'année avec James Bond, c'est Dune, du réalisateur de Prisoners ou encore Sicario, Denis Villeneuve. Alors l'attente a été longue, Covid oblige, mais ça en valait la peine. Denis Villeneuve adapte ce roman mythique de science-fiction de Frank Herbert. Et je vous arrête tout de suite, pas besoin d'avoir lu le pavé pour comprendre le film.
Hey, Duncan, je peux te faire confiance ?
Oui, toujours, tu le sais.
J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie.
Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé. Regarde-toi, t'as pris du muscle,
tu crois ?
Non.
Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling ou encore Javier Bardem. Un casting de dingue, une mise en scène époustouflante, grandiose, des effets spéciaux, sonores, visuels, de partout. C'est du grand cinéma et du grand spectacle surtout.
Merci beaucoup pour le conseil, Laurie Choleva. On vous retrouve bien sûr à 14h sur Europe 1 pour Clap. La météo à présent, Valérie Darmon. Quel temps cet après-midi ? Ah, plutôt gris, hein.
Effectivement, Thierry, l'instabilité orageuse se généralise à partir de maintenant des Pays de la Loire jusqu'au Limousin, Auvergne, jusque Midi-Pyrénées. Et les températures sont en baisse au passage de cette perturbation. Soyez particulièrement prudents et vigilants sous les orages entre l'Auvergne, la vallée du Rhône et de la Saône. En notre fin d'après-midi et surtout en soirée, c'est le moment où les orages seront les plus forts. Ils persisteront d'ailleurs jusqu'en fin de nuit. Pour le bassin parisien, après notre jolie matinée, les averses se déclenchent en seconde partie d'après-midi, voire aussi ce soir. Au nord et à l'est, ainsi que dans le sud-est, il fait beau et très doux. Cet après-midi se terminera par des orages tout de même sur les reliefs. Je vous donne un mot des températures.
Allez-y.
Qui s'échelonnent entre 18 à Saint-Girons et 28 à Nîmes et Avignon, 21 annoncés à Nantes et à Vannes aux heures les plus chaudes, 22 à Angers et Verdun, 23 au Puy-en-Velay et à Lons-le-Saunier, 24 en région parisienne et 26 degrés à Montpellier.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, Isabelle Morizet reçoit l'humoriste et comédien Artus. Le rappel de l'actu dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.